Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Alors qu'en France, le Parti Socialiste n'est plus que l'ombre de lui-même, nous vous proposons une réflexion sur le socialisme, justement. Deux ouvrages m'y conduisent, leurs auteurs sont nos invités. Jean-Numa Ducange nous propose une biographie de Jean Jaurès, dans laquelle il note ceci. Personne de nos jours n'ose réellement critiquer sa vie et son œuvre. Il n'a certes jamais gouverné le pays, mais son action a profondément marqué l'histoire de la gauche. Pierre-Emmanuel Guigot, lui, nous propose une biographie de Pierre Mauroy intitulée « Le dernier socialiste ». L'ancien Premier ministre, souligne-t-il, est sans doute dans le PS des années 70-90, celui qui incarne le mieux la tradition socialiste telle qu'elle existe depuis la fondation de la SFIO, à la fois ouvrière et enseignante, laïque, enracinée dans les territoires. Nous allons donc parler d'une certaine idée du socialisme ce dimanche et voir ce que ces deux personnalités ont encore à nous dire aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez également écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio, l'appli RFI Pure Radio et votre moteur de recherche préféré. Bonjour Jean-Numa Ducange.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen, membre de l'Institut universitaire de France et donc auteur de cette biographie de Jaurès, publiée chez Perrin, qui va être au cœur de notre conversation. Bonjour Pierre-Emmanuel Guigot.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, mais à distance. Vous êtes, vous, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris-Est Créteil et auteur de Pierre Mauroy, donc « Le dernier socialiste » aux éditions passées et composées. Nous allons voir, je le répète, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission, ce que ces deux grands hommes politiques socialistes ont encore à nous proposer sur, en quelque sorte, les ruines du Parti Socialiste aujourd'hui. Jean-Numa Ducange, vous dites quelque part dans votre livre qu'en canonisant Jean Jaurès, on lui a probablement fait perdre une certaine substance. Donc il s'agit d'aller gratter un petit peu pour redécouvrir en quelque sorte ce que fut Jean Jaurès.
Oui, absolument. Comme Jean Jaurès a été panthéonisé il y a un siècle, en 1924, il est devenu une grande figure nationale au-delà du Parti Socialiste, au-delà de la gauche. Mais ce que j'essayais de faire dans cet ouvrage, effectivement, c'est de revenir aux conditions dans lesquelles Jean Jaurès a évolué et comment il est devenu socialiste. Jean Jaurès était quelqu'un qui était plutôt modéré, républicain de centre-gauche, pourrait-on dire à la base, et il est devenu progressivement socialiste. Et comme il est devenu socialiste à une époque où peu de gens l'étaient, hein, puisque c'était très minoritaire à la fin du 19e siècle.
On verra ce que signifiait le socialisme d'ailleurs à l'époque.
Absolument. Eh bien, c'est quelqu'un qui a été confronté très vite aux problématiques, par exemple, d'alliance. Si alliance il doit y avoir avec un certain nombre de forces politiques, lesquelles et jusqu'où? Est-ce que la République est un marqueur suffisant pour faire des alliances? Est-ce que l'espace de la gauche à l'Assemblée et l'espace naturel dans lequel le Parti Socialiste doit se mouvoir ou non, eh bien, toutes ces questions d'alliance ont beaucoup obsédé Jean Jaurès. Et c'est vrai que c'est un petit peu un paradoxe de voir que c'est une figure aujourd'hui très consensuelle.
Bon, on a beaucoup de fait l'unanimité. Il y a énormément de rues, d'avenues, d'écoles,
absolument,
de bibliothèques.
Après De Gaulle, Leclerc et quelques autres, c'est un des plus nommés en France. Donc, on ne peut pas rater le nom de Jean Jaurès. En revanche, est-ce qu'on se souvient que Jean Jaurès a adopté de manière critique, mais adopté quand même une certaine lecture marxiste des rapports sociaux, des rapports politiques, que Jean Jaurès a été détesté, haï, calomnié pendant une grande partie de son existence, beaucoup par la droite nationaliste, mais aussi au sein de la gauche, parce qu'il va devenir la figure par excellence du Parti Socialiste. Mais pour en arriver là, il a fallu batailler pendant des années, au prix de compromis, au prix de congrès houleux, dont le Parti Socialiste a le secret, si je puis dire, de ses origines à nos jours. Et voilà, Jean Jaurès est une figure dont il faut comprendre pourquoi elle est devenue consensuelle. Et il y a des raisons à cela, parce que quand vous pensez, par exemple, à une des lois les plus citées dans la sphère politique française, la loi de séparation des Églises et l'État de 1905, la fameuse loi de laïcité, sans Jean Jaurès et les socialistes en 1905 à l'Assemblée, globalement, il n'y aurait pas pu avoir cette loi. Donc Jean Jaurès a joué objectivement un rôle autour de grandes lois dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Mais ça, c'est le, comment dirais-je, l'arbre qui cache la forêt, parce qu'à côté de cela, effectivement, il était très critiqué par beaucoup de gens à gauche. Certains le trouvaient d'une certaine manière trop marxisant, d'autres trouvaient au contraire qu'il était trop modéré, trop républicain. Donc il a toujours essayé de chercher à définir une ligne un peu médiane autour d'un certain nombre de grands sujets. Et ça l'a beaucoup épuisé de jour en jour. Mais il faut souligner aussi que c'est peut-être ce qu'il y a... Un des aspects les plus intéressants du personnage, c'est sa ténacité, hein, par-delà les multiples contradictions auxquelles il doit s'affronter.
Donc Jean Jaurès, un homme du 19e siècle et du début du 20e siècle, mort en 1914, on y reviendra. On va donc également parler d'un homme du 20e siècle, Pierre Mauroy. Pierre-Emmanuel Guigot, vous ouvrez votre livre avec une citation du célèbre éditorialiste politique Alain Duhamel, qui disait de lui « Personne n'incarne le socialisme français mieux que Pierre Mauroy, lui aussi est finalement consensuel. »
Consensuel, peut-être moins, je dirais, que Jean Jaurès. Si j'ai mis cette phrase en exergue, c'est aussi que je trouve qu'elle correspond assez bien à l'image de Pierre Mauroy comme étant l'incarnation de ce socialisme hérité du 19e siècle, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la fois ouvrier, laïque, enseignant, ancré dans les territoires, et évidemment ce sera le Nord pour Pierre Mauroy, et ça c'est vraiment une des spécificités qui sera la sienne, et qu'il sera un des derniers à incarner dans les années 70-80, à un moment donné où le Parti Socialiste a entamé une mue, est devenu un parti avec des professionnels de la politique, avec de nombreux élus, un parti aussi où sont arrivés beaucoup d'énarques qui vont changer de manière assez claire l'ADN de ce parti socialiste. On va quitter le parti véritablement militant tel qu'il était depuis le 19e siècle pour entrer dans une ère de professionnels de la politique. Et donc Pierre Mauroy est sans doute l'une des dernières grandes incarnations de cette SFIO, Parti Socialiste, des débuts. C'est d'ailleurs assez amusant de dialoguer aujourd'hui avec Jean-Numa Ducange autour de Jean Jaurès et de Pierre Mauroy, parce qu'on pourrait presque dire qu'on fait le premier socialiste avec Jean Jaurès et le dernier socialiste avec Pierre Mauroy.
Et c'est un peu pour ça que j'ai voulu aussi que nous fassions cette émission avec vous deux. Est-ce qu'il y a quand même une différence notable entre les deux? C'est que Pierre Mauroy était Premier ministre, il a exercé le pouvoir, alors que Jean Jaurès, lui, est resté un homme des idées, on peut dire des choses comme ça, Jean-Numa Ducange?
Oui, Jean Jaurès est un professeur d'université. Hein. S'il n'avait pas fait de politique, il serait peut-être resté à l'université de Toulouse. Il aurait probablement fait une belle carrière. Il a fait une thèse, etc.
Alors donc justement, il faudrait redonner à nos auditeurs quelques repères biographiques pour bien comprendre ce que fut Jean Jaurès.
Oui, alors Jean Jaurès, si vous voulez, pour schématiser, c'est un bon élève du Tarn. Il est né à Castres. C'est un élève remarqué.
Donc qui le va avoir... sud de la France.
Voilà, l'Occitanie. C'est quelqu'un qui est monté à Paris parce qu'il a une bourse, parce que c'était un bon élève. Il entre dans la plus prestigieuse des grandes écoles, l'École normale supérieure. Il va obtenir l'agrégation de philosophie. Et c'est un des premiers, dans le cadre universitaire, à s'intéresser à la pensée de Karl Marx. Alors, il s'intéresse aussi à Luther, à Hegel, à toute la tradition allemande. Donc c'est un intellectuel, profondément. Il aurait pu rester un intellectuel. Alors, rapidement, il a été happé par la politique. C'est quand même le plus jeune député de la Chambre républicaine, donc en 1885, à 26 ans. Mais c'est clair que, jusqu'au bout, et d'ailleurs, ça lui vaut des moqueries hein, de ses adversaires, il garde un côté universitaire, intellectuel, pétri de références classiques à l'Assemblée. Ses discours sont magnifiques, on les lit a posteriori avec un grand plaisir. Mais on voit bien que ça reste un intellectuel en politique. Il a toujours voulu rester en politique finalement, alors qu'il aurait pu probablement nous léguer une œuvre plus dense, hein, même intellectuelle. Voilà. Mais il n'a jamais pu totalement se séparer de cela. Et je crois qu'un de ses grands déchirements intérieurs, hein, c'est une interprétation de ma part, hein, mm-hmm. mais quand on voit ce qu'il fait, ce qu'il dit, quand on voit ce qu'il fait pendant ses vacances, par exemple, il y a une maison à Bessoulette, on s'entend, il va bord de la mer, bon, bref, il se replonge toujours voilà, dans des classiques latins, grecs, ça le fascine, ça l'enthousiasme toujours... Il se vit comme quelqu'un qui est dans la continuité des grands penseurs d'avant. Voyez, donc, et ce n'est pas évident de retourner à l'Assemblée nationale et d'avoir des députés qui, pour certains, ont un rapport à la culture classique moins évident.
Et Jean-Numa Ducange, comment a-t-il rencontré le socialisme, Jean Jaurès? Vous expliquez très bien dans votre livre que la rencontre s'est faite progressivement. Il n'est pas né socialiste.
Non, il n'est pas du tout né socialiste. À la différence d'autres dirigeants socialistes de son temps, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a été persécuté par les autorités, qui était en exil. Beaucoup de gens ont vécu cela, hein, sous le Second Empire notamment. Eh bien, Jean Jaurès, lui, il est venu au socialisme pour deux raisons fondamentalement. Une raison intellectuelle, qui a partie liée avec ce que je disais avant, sur sa formation à l'université, à l'École normale supérieure. À l'École normale supérieure, il y a un bibliothécaire à l'époque, qui s'appelle Lucien R. Absolument, qui connaît très bien le socialisme allemand. Et donc, par des échanges intellectuels, il s'intéresse à l'idée socialiste comme idée. Voyez, alors, un minimum en rapport avec ce qui se passe dans le pays, mais c'est un quelqu'un qui a fondamentalement une démarche intellectuelle. Et d'autre part, je le disais, il est du Tarn, de Castres, mais il y a une ville importante qui va jouer un rôle décisif dans sa vie politique, qui est dans sa circonscription, même si circonscription change un peu, je vous fais grâce, une grande tradition française de changer de circonscription.
Le redécoupage,
exactement, ou changement de mode de scrutin, encore autre chose. Il y a une ville qui s'appelle Carmo, et Carmo, c'est une ville de mineurs qui descendent pour récupérer le charbon, qui est une des grandes sources énergétiques de la France de l'époque, hein. On est toujours dans cette France qui s'industrialise progressivement. Et ben Jean Jaurès, qui lui vient d'un milieu plutôt de commerçants aisés, il y a beaucoup de militaires dans sa famille, il n'a pas eu à connaître réellement la misère, mais la misère, il la voit. Ces ouvriers exploités qui ont des conditions de travail très difficiles, ces ouvriers dont certains n'atteignent pas 45-50 ans d'espérance de vie à l'époque, il voit cela. Et d'une certaine manière, il voit les ouvriers d'un côté, en grève, en lutte, qui subissent des conditions très difficiles. Ça, c'est le côté matériel de son adhésion au socialisme. Et puis, de l'autre côté, cette appétence intellectuelle pour l'idée qu'il décolle à l'école normale supérieure. Peut-être une dernière chose, qui est d'ailleurs à la charnière entre les deux, c'est la politique. En politique, il va rencontrer Jules Guesde, beaucoup moins connu que Jaurès aujourd'hui, mais qui a joué un grand rôle dans l'histoire du Parti Socialiste aussi. C'est un peu, si on a un Parti Socialiste en France en 1905, c'est un peu grâce, entre guillemets, à l'alliance entre Jean Jaurès et Jules Guesde. Et Jules Guesde, lui, est beaucoup plus marxiste que Jaurès. Et il a été en exil en Suisse, en Italie. C'est un persécuté, un exilé, qui revient en France au bout d'un moment. Et Jaurès est toujours un peu, il le dit lui-même, il est un peu impressionné par ces socialistes-là qui ont été persécutés, encore une fois, qui ont des idées très fermes, très tranchantes. Et Jaurès va estimer d'une certaine manière qu'il faut des gens comme ça dans le Parti Socialiste. Il faut des gens qui soient plus tranchants que lui, plus lutte de classe que lui. Mais lui va essayer de faire une sorte de jonction entre ces militants comme Guesde, très marxistes, même au sens un peu schématique du terme, et la République, d'où il vient.
Enfants de la misère, nous sommes de force des révoltés. Nous vengerons nos mères que des brigands ont exploitées. Nous ne voulons plus de famine. À qui travaille, il faut du pain. Demain, nous prendrons les usines. Nous sommes des hommes et non des chiens. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. La jeune garde qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence. C'est la revanche de tous les meurtres de France. C'est la révolution qui s'avance. C'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, la jeune garde.
Suite de ce numéro d'idées consacré cette semaine à l'héritage du socialisme à partir de deux grands représentants de ce courant politique, Jean Jaurès avec une biographie de Jean-Numa Ducange publiée chez Perrin et Pierre Monroy avec Pierre-Emmanuel Guigot, également notre invité, qui publie une biographie intitulée Pierre Monroy, le dernier socialiste aux éditions Passé Composé. Pierre-Emmanuel Guigot, comment Pierre Monroy est-il entré en socialisme, si je puis dire?
Alors, contrairement à Jean Jaurès, Pierre Monroy, lui, est né en socialisme. Il naît dans une commune qui est une commune alors plutôt rurale, mais en fait très ouvrière. Tout son entourage est ouvrier, même si, là aussi, comme Jean Jaurès, lui-même n'est pas un ouvrier. Il n'est pas issu de la classe ouvrière. On peut dire qu'il est issu de la classe populaire, mais pas de la classe ouvrière. Son père était instituteur, par la suite directeur d'école.
Donc rappelons qu'il s'agit d'un homme qui est né, lui, dans le Nord. Nous sommes aux deux extrêmes avec ces deux...
Effectivement, dans le sud du département du Nord. Et effectivement, il va vivre dans cet environnement très ouvrier, très industriel, là aussi. Et même si lui-même n'est pas issu de cette classe ouvrière, il va la côtoyer de très près dès son enfance. Dans sa famille, on fait de la politique, pas son père, mais plutôt son oncle, qui va être élu local d'ailleurs, alors plutôt radical socialiste. Mais lui, Pierre Monroy, est tout de suite attiré par le socialisme, qui est évidemment très présent dans son territoire du Nord. Il va faire la rencontre avec la SFIO, qui est à l'époque en pleine phase d'ascension. On est dans l'entre-deux-guerres. Il se souvient du moment 36 où il va voir justement, eh bien, cette victoire du Front populaire, de la gauche et du Parti socialiste en particulier, qui va profondément le marquer et qui va l'amener par la suite à s'engager. Et c'est ainsi que, alors, il est adolescent pendant la guerre et lorsque la guerre est terminée, eh bien, il va tout de suite se rapprocher de la SFIO alors qu'il vient juste d'être majeur, pour pouvoir adhérer à la SFIO et surtout adhérer aux jeunesses socialistes, dont il est repéré très rapidement. Il est repéré par ses positions qui sont à l'époque moins à gauche qu'un certain nombre de jeunesses socialistes qui sont attirées par les idées nouvelles qui arrivent et notamment par le trotskisme. Lui va rester un fidèle à la ligne directrice, la ligne centrale de la SFIO, et c'est ainsi qu'il va par exemple soutenir Léon Blum, hein. Il va se trimballer dans les congrès des jeunesses socialistes avec le portrait de Léon Blum, avec le portrait de Jean Jaurès, ce qui évidemment va être moqué par ses concurrents au sein des jeunesses socialistes, mais il va être tout de suite repéré par les nouveaux leaders de cette SFIO dès le lendemain de la guerre. Ça sera notamment Guy Mollet qui a réussi à écarter Léon Blum à la tête de la SFIO, et Guy Mollet va le propulser en 1950 comme le chef des jeunesses socialistes. Et donc là, Pierre Mauroy va par la suite suivre un cursus honorum au sein de cette SFIO. Il va rester pendant 8 ans à la tête des jeunesses socialistes. Il va aussi créer, en parallèle de cela, une nouvelle organisation proche de la SFIO sans être véritablement dans la SFIO. C'est les clubs Léo Lagrange, qui sont dédiés au sport, au tourisme, aux loisirs, dans un socialisme du Nord qui est ancré dans les territoires, mais qui est aussi ancré dans la société civile. Ça n'est pas simplement un parti auquel on adhère, c'est vraiment une vie que l'on consacre au socialisme à cette époque-là. Et donc les clubs Léo Lagrange donnent justement ce côté social, sociétal, au socialisme du Nord.
Jean-Numain Ducange, Pierre-Emmanuel Guigaud vient de parler à plusieurs reprises de la SFIO. Il faut s'y arrêter parce que Jean Jaurès est un des cofondateurs de la SFIO. Que voulait dire d'ailleurs la SFIO ?
Alors la SFIO voulait dire Section Française de l'Internationale Ouvrière. C'est donc l'ancêtre du Parti Socialiste actuel. Il a été fondé donc au printemps 1905 dans un contexte qui est intéressant de rappeler, parce que avant la SFIO, ce Parti Socialiste Unifié, il existait deux partis socialistes concurrents depuis plusieurs années. Et malgré tout, bon, pour différentes raisons, l'aspiration des militants et des sympathisants à la base, le souci d'être plus efficace électoralement, le souci d'être plus visible nationalement, et aussi ça a joué un grand rôle, d'où le nom de SFIO, le rôle de l'international socialiste, qui était considéré comme quelque chose de fondamental à l'époque. Qu'est-ce que c'est l'international socialiste ? C'est l'international qui avait été fondé en 1889, en regroupant tous les socialistes, en gros, de l'Europe à l'époque, et bientôt du monde. Et cet international donnait des directives ou des conseils de temps en temps. Et là, la directive principale à l'adresse des socialistes français, c'était « Unifiez-vous enfin !» Et donc, cette unification, par-delà les divergences, a lieu et donc est créée cette SFIO, Parti Socialiste Unifié, donc en avril-mai 1905. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où est fondé ce Parti Socialiste, on est en train littéralement de discuter tous les jours de la loi de séparation des Églises et de l'État.
Oui, c'est une année importante, 1905.
Oui, absolument. Hein. Ce que oui. C'est de raconter dans cette biographie sur l'année 1905, c'est que, bien sûr, il y a la création du Parti Socialiste, c'est important en tant que tel, mais Jean Jaurès, si vous le suivez jour après jour, un jour il est à la Chambre des députés, un jour il est au congrès du Parti Socialiste, parce que c'est en même temps que l'on discute la fameuse loi de laïcité et le Parti Socialiste. Donc, une des raisons pour lesquelles la gauche française va être si imprégnée de la question de la laïcité et bientôt la société française tout entière concernée par ce débat, eh bien, c'est parce que c'est tout simplement en même temps. Et la dernière chose qu'il faut dire par rapport à la SFIO et le I de international, c'est qu'il y a un événement important aussi en 1905 que l'on a oublié a posteriori, c'est qu'il y a eu une première révolution en Russie à partir de janvier 1905. Oui, alors, tout le monde pense à la révolution russe de 1917, et c'est fort légitime, c'est elle qui va changer le cours du XXe siècle. Mais la révolution russe de 1905, qui, au bout du compte, n'a pas apporté beaucoup de choses, à part quand même une première assemblée parlementaire en Russie, hein, la Douma, qui est l'ancêtre d'ailleurs nominalement du Parlement russe actuel, eh bien, il y a eu un processus révolutionnaire en Russie. Et quand on fonde la SFIO, quand on discute de la loi de séparation en France, on ne sait pas si le tsar, le grand chef de toutes les Russies à l'époque, eh bien, va rester en poste. Donc il y a une ambiance aussi Est-ce que Moscou, plutôt Saint-Pétersbourg à l'époque, va devenir une république ou pas? Voilà, c'est tout cela qu'il faut bien comprendre pour avoir en tête les origines du Parti socialiste, auquel évidemment le nom de Jean Jaurès reste largement associé.
Jean Jaurès, fondateur qui plus est d'un grand journal qui s'appelle L'Humanité.
Oui, alors Jean Jaurès fonde...
En 1904.
En avril 1904, effectivement, Jean Jaurès a fondé L'Humanité, donc le quotidien socialiste. Et ce qui est intéressant avec cette démarche-là, bon, il ne faut pas être naïf, hein, Jean Jaurès est un homme politique. La plupart des grands hommes politiques de premier plan à l'époque ont intérêt, si j'ose dire, à avoir leur propre organe de presse. Hein. On pense à Clémenceau, qui a eu l'Aurore, qui a joué un grand rôle dans l'affaire Dreyfus. Jaurès écrit dans la Dépêche de Toulouse depuis 1887. Son ancrage régional est très important, fondamental. Il a été aussi co-directeur de La Petite République, qui est un journal républicain à ce moment-là. Mais il lui faut son journal, quand même, pour exister comme dirigeant socialiste et républicain. Et dernière chose sur L'Humanité, L'Humanité, avec un grand H, bon, ben, c'est de manière très simple, tous les êtres humains à défendre au-delà de la lutte de classe, pourrait-on dire. Il aurait pu appeler le journal autrement, hein, socialisme et lutte de classe, ou je ne sais pas, enfin quelque chose qui aurait été plus marqué politiquement. S'il appelle ça L'Humanité, c'est parce qu'il est aussi dans une démarche de considérer que, oui, il y a des inégalités sociales, oui, il y a bien évidemment la lutte des classes, mais comme un certain nombre de choses le montrent, notamment l'affaire Dreyfus, hein, il va se battre beaucoup pour les droits de l'individu dans le cadre de cette affaire-là, il y a une humanité qui est à défendre et à un moment donné, en termes d'alliance politique, en termes de même de position philosophique, il existe quelque chose qui est au-dessus des classes sociales. Ça ne veut pas dire qu'il nie les oppositions de classe, ça ne veut pas dire qu'il nie les inégalités sociales, mais il pense que quand même il y a des grands principes. Et là, on retrouve son côté philosophe, humaniste, qui est fondamentalement sa formation intellectuelle et ses convictions initiales.
Les grands principes, Pierre-Emmanuel Guigour, on les retrouve également chez Pierre Mauroy.
Oui, tout à fait. Alors, on retrouve la laïcité, hein, qui va être un élément essentiel pour lui. Il est quand même, lui aussi, professeur. Alors, il n'a pas été normalien, il n'a pas fait de grandes écoles, mais il a fait l'École nationale d'apprentissage. Donc, il va devenir un spécialiste de l'enseignement dans les milieux de l'apprentissage et des établissements techniques. Professeur d'histoire géo d'ailleurs, et on va retrouver également parmi les grands principes évidemment l'attachement au socialisme, hein, qui est chevillé au corps. C'est d'ailleurs pas anodin qu'il va fonder après Matignon une fondation, la première grande fondation politique et intellectuelle, en quelque sorte le premier think tank français, et qu'il va appeler justement la fondation Jean Jaurès, et qui existe toujours. Mais il y a aussi un autre élément qui va vraiment marquer sa vision politique, c'est la conquête du pouvoir, quelque chose qu'on retrouve pas de manière aussi, en tout cas, obsessionnelle chez Jean Jaurès. Et puis le fait est qu'il a été assassiné l'a empêché peut-être par la suite d'exercer ce pouvoir-là. Lui, Pierre Mauroy, ambitionne très tôt, en fait, l'exercice du pouvoir. Pas pour lui, il n'avait pas spécialement une ambition. D'ailleurs, il aurait pu être candidat à l'élection présidentielle, il l'a pas voulu. Mais il le veut pour exercer le pouvoir, pour transformer concrètement la vie des gens. C'est vraiment son horizon d'attente qu'il va pouvoir ainsi mener à bien en tandem avec quelqu'un qui va là aussi profondément marquer son destin. S'il y a Jaurès et Guède, on peut dire qu'il y a dans le socialisme de la deuxième moitié du XXe siècle Pierre Mauroy et François Mitterrand. François Mitterrand et Pierre Mauroy.
Ils se sont rencontrés en 1956. C'est à partir de là que ces deux-là qui avaient une relation d'amitié chez Mitterrand, c'était finalement peut-être assez rare, profonde. Il y avait entre François Mitterrand et Pierre Mauroy un grand respect.
Oui, tout à fait. Ils se rencontrent en 1965, lorsque François Mitterrand est candidat à l'élection présidentielle pour la première fois. Et Pierre Mauroy va être nommé son représentant dans le Nord, à Lille notamment. Et il va l'accueillir et il va le présenter au public. Et là, tout de suite, en fait, il y a un lien qui va se créer entre les deux. Un lien qui ne se rompra plus jamais. Hein. Il va y avoir par la suite quelques petites tensions. Mais globalement, Pierre Mauroy va se mettre dans la route François Mitterrand et on va le retrouver dans toutes les grandes étapes de l'ascension de François Mitterrand. C'est lui qui va préparer le terrain pour la conquête du Parti Socialiste en 1971 à Épinay. C'est vraiment sa fédération avec celle des Bouches-du-Rhône de Gaston Defferre qui fait basculer l'avantage du côté de François Mitterrand. François Mitterrand le nomme le numéro 2 du Parti Socialiste. Il va le rester avec lui jusqu'en 1979. C'est lui qui va être le directeur de ses différentes campagnes, hein, notamment en 1974, c'est lui qui dirige la campagne présidentielle. Et puis en 1981, c'est assez logiquement que François Mitterrand le nomme Premier ministre pour justement mettre en œuvre le programme commun de gouvernement qui avait été élaboré avec le Parti communiste, alors qu'il avait été retouché quelque peu en 1981, puisqu'il s'était rompu, les liens s'étaient rompus avec le Parti communiste. Mais globalement, eh bien, c'est ce programme-là qui va être mis en œuvre en 1981.
On sait que ça peut être autrement.
Sans chômage, sans déprime.
On sait qu'il existe autre chose.
Un chemin différent.
On sait qu'on peut vivre autrement. Alors, qu'est-ce qu'on attend?
Oui, on veut que ça change maintenant. Mitterrand président, allons, c'est le moment.
Idée. La parole à ceux qui pensent le monde.
Suite de ce numéro d'idées, nous sommes, je vous le rappelle, en compagnie de Jean-Numain Ducange, qui nous propose une biographie de Jean Jaurès chez Perrin, et de Pierre-Emmanuel Guigot, qui lui a écrit une biographie de Pierre Mauroy aux éditions Passé Composé. Alors une grande différence sépare les deux hommes, c'est que la vie de Jean Jaurès s'est terminée, comme on le sait, tragiquement en 1914.
Oui, absolument. Jean Jaurès a été assassiné.
Un destin brisé.
Absolument, à la veille de la Première Guerre mondiale, donc le 31 juillet 1914. Alors, ce n'est pas totalement une surprise, si j'ose dire, à l'époque, bien que ça choque beaucoup les contemporains, puisque Jaurès a été menacé de mort depuis des années par un certain nombre d'individus, par un certain nombre de courants politiques. Il était relativement fréquent dans la presse de l'époque d'appeler au meurtre de ses adversaires politiques. Ce n'était pas condamné par la justice comme ça le serait aujourd'hui, précisons les choses.
Et très rapidement, Jean Dumas, pour quelle raison était-il menacé?
Alors, je pense que beaucoup de gens voulaient sa peau pour une série de raisons. Alors, quand même, celui qui l'a assassiné, un certain Raoul Villain, c'est un élément qui, si j'ose dire, qui fait un peu ça dans son coin, mais c'est quand même quelqu'un qui est plutôt proche de la droite nationaliste. Et fondamentalement, une partie de la droite de l'époque reproche à Jean Jaurès d'être pro-allemand. C'est-à-dire que, il faut se mettre dans le contexte, il y a eu la guerre franco-allemande en 1870. L'unité allemande a été proclamée symboliquement dans la Galerie des Glaces à Versailles en janvier 1871. Donc, l'affaire de toute cette génération, qui est la génération de Jaurès en gros, c'est qu'est-ce qui va se passer avec l'Allemagne, étant donné qu'en plus, une partie du territoire français, comme on le sait, l'Alsace-Moselle a été annexée par l'Allemagne impériale. Donc, l'enjeu, encore une fois, dans la presse, dans les mentalités de l'époque, c'est est-ce qu'il va y avoir une nouvelle guerre avec l'Allemagne? Est-ce qu'il faut récupérer manu militari les territoires, etc., etc. Et Jean Jaurès, lui, un des grands objectifs de sa vie, qui sera finalement évidemment un échec, et il ne le verra pas, même si au moment où il est assassiné, les jeux sont en grande partie faits, c'est d'éviter à tout prix une conflagration nouvelle entre la France et l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle aussi il est resté dans la mémoire collective. C'est un grand pacifiste, c'est quelqu'un qui pense qu'il faut travailler avec les forces politiques allemandes de gauche, social-démocrate à ce moment-là, pour essayer de créer, entre guillemets, un axe franco-allemand grâce aux socialistes des deux côtés. C'était très difficile, c'était probablement utopique dans le contexte de l'époque, mais c'est ça quand même qui l'a beaucoup animé. Et beaucoup de gens l'appellent Herr Jaurès, c'est-à-dire en français, Herr c'est monsieur en allemand, donc c'est pour dire Jaurès est à la solde des Prussiens, est à la solde de l'adversaire et de l'ennemi. On aura de cesse de lui rappeler ça, et lui toujours, de manière d'ailleurs parfois très pédagogique, il rappelle qu'il est patriote, qu'il est du côté de son pays, mais qu'il pense que désormais il faut une alliance avec ce qu'il y a de meilleur en Allemagne, ce qu'il y a de plus progressiste, pourrait-on dire, ce qu'il y a le moins du côté du militarisme. Et donc, il a des liens compliqués, mais il a des liens quand même avec les sociaux-démocrates allemands, très tôt et en permanence. Et il faut ajouter, c'est sa formation intellectuelle, qu'il parle allemand.
Quelle était la position de Jaurès par rapport au colonialisme? Là aussi, il y a eu une évolution de pensée.
Oui, par rapport à Jaurès, effectivement, et la question coloniale, il y a une évolution. Jaurès est un enthousiaste de la conquête coloniale, au début de sa carrière politique. Il est du côté de Jules Ferry. Alors Jules Ferry, on sait, c'est les fameuses lois laïques, pas celles de 1905, mais celles d'avant, celles qui rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire dans les années 1880. Et Jaurès, au départ, est du côté de Jules Ferry, sur la question laïque, mais aussi sur la question coloniale. Jules Ferry est celui, c'est dans tous les manuels scolaires français désormais,
On rappelle que Jules Ferry disait qu'il y a des races supérieures qui ont vocation à coloniser les races inférieures. Voilà, ce qui vaudra une fameuse réplique de Clémenceau à ce moment-là. Mais Jaurès est au départ tout à fait convaincu qu'il existe des races supérieures, des races inférieures. Bon. Mais en devenant socialiste, il va évoluer sur ce sujet. Il va considérer que la conquête coloniale n'est pas forcément illégitime en tant que telle. Hein. Il ne faut pas le tirer trop à gauche non plus, sinon ça n'a pas de sens. Mais que la politique coloniale répressive, les aspects les plus détestables de la conquête coloniale doivent être combattus. Et entre parenthèses, c'est une des raisons qui lui vaut d'être insulté, hué en permanence à l'Assemblée. C'est parce qu'il va critiquer l'ordre colonial, ce qui est à l'époque une sorte de sacrilège pour un certain nombre d'hommes politiques français. Donc ça, c'est une dimension importante de son existence. Et puis, il fait une démarche intellectuelle. Vous voyez, il écrit une histoire de la Révolution française de plusieurs centaines de pages quand il perd son mandat de député. Parce qu'il adore, il dit « Ah, ça, je vais pouvoir me remettre à écrire, enfin !» Et quand il écrit sur la Révolution française, il va tenir compte, par exemple, de l'indépendance d'Haïti. Alors aujourd'hui, chose complètement banale de dire qu'il y a eu des esclaves qui se sont révoltés, qu'il y a eu des révoltes anticoloniales pendant la Révolution française. Mais à l'époque, vous avez des hommes politiques de premier plan qui avaient écrit des histoires de la Révolution française sans dire le moindre mot sur le monde colonial. Jaurès, lui, il prend à bras le corps la question coloniale, enfin la question de la conquête du Maroc, c'est une question d'actualité à ce moment-là. Voilà, donc il évolue sur cela de manière très nette et il est même, alors qu'il n'est pas le plus à gauche sur certains sujets, au sein des socialistes français. Sur la question coloniale, il est, on peut dire, assez courageux, quoi qu'on en pense, parce qu'il est de plus en plus critique de l'ordre colonial, ce qui, encore une fois, dans la France de l'époque, omnibulée d'une certaine manière par l'Alsace-Moselle, mais aussi par son influence dans le monde via la conquête coloniale, est une question décisive. Donc ça, c'est vraiment un aspect important du dernier Jaurès, pourrait-on dire.
Pierre-Emmanuel Guigaud, revenons à Pierre Monroy et aux années 80 du XXe siècle, à partir de 1981. Donc Pierre Monroy a été Premier ministre de 1981 à 1984, avec dans un premier temps un élan très social.
Oui, tout à fait, et c'est pour ça qu'on se souvient de lui, hein, donc comme Premier ministre de 1981 à 1984. C'est qu'il va mettre en œuvre les grandes réformes sociales qui vont marquer les deux septennats de François Mitterrand. L'essentiel de ces grandes réformes sociales sont entreprises en seulement un an, entre 1981 et 1982. Alors on se souvient évidemment de la retraite à 60 ans, mais ça sera aussi les 39 heures, donc la réduction du temps de travail de 40 à 39 heures. Ça sera aussi les lois Auroux, qu'on a un petit peu oubliées, mais qui ont profondément transformé en fait les manières de travailler, en améliorant les conditions de sécurité, les conditions de vie, d'hygiène des salariés au quotidien. Et donc ça, ça a été aussi une véritable révolution dans les manières de travailler. Sur le plan de la politique économique, ça sera aussi un tournant, hein, avec la volonté d'avoir une politique de relance très ferme qui sera menée à travers notamment les nationalisations. Il y a de nombreuses entreprises et banques qui vont être nationalisées début 1982. Il y a aussi des grandes réformes qu'on pourrait qualifier plus de sociétales, qui vont être notamment l'abolition de la peine de mort, alors qui avait été une des promesses du candidat François Mitterrand pendant la présidentielle et qui va être mise en œuvre par Robert Badinter, ministre de la Justice, avec le soutien de Pierre Mauroy. Il y aura aussi des lois qui vont améliorer la condition féminine. Hein. C'est notamment en 1982 une loi qui permet le remboursement de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Elle avait été légalisée par Simone Veil en 1975, mais elle sera désormais remboursée. Et Pierre Mauroy, cette loi, en fait, il va l'imposer avec sa ministre contre François Mitterrand. François Mitterrand était contre pour des raisons de conscience. Et c'est Pierre Mauroy qui lui impose, en fait, par la surprise, eh bien, ce remboursement de l'IVG.
Et Pierre-Emmanuel Guigaud, oui. Il y a aussi ce que l'on a appelé le tournant de la rigueur, l'appellation est restée dans les livres d'histoire, que Pierre Monroy assumait également.
Tout à fait. Donc, en même temps, il est celui qui a mis en œuvre des réformes sociales telles qu'il n'y en avait plus depuis 1945. Et en même temps, quand la situation économique se dégrade très rapidement à partir de juin 1982 et puis de mars 1983, il va entreprendre en deux temps ces mesures de rigueur, ces deux plans de rigueur très stricts. Ça sera d'abord en juin 1982 avec une première dévaluation et toute une série aussi d'éléments de rigueur, et puis à nouveau un nouveau grand plan de rigueur en mars 1983 qui est resté beaucoup plus dans les mémoires, qui se traduit aussi par une dévaluation, par des questions de change aussi, par un blocage des budgets dépensés à l'étranger. Donc toute une série de conditions qui vont marquer les esprits, qui vont décevoir une partie de la gauche, qui considère qu'elle est en quelque sorte un petit peu trahie par cette politique de rigueur économique qui va trancher avec les grandes réformes sociales de 1981. Mais pour Pierre Mauroy, il n'y a pas de contradiction entre les deux, en fait. Pour continuer plus tard des politiques sociales, il considère qu'il faut, à ce moment-là, mettre en place cette politique de rigueur. Il n'y a pas de discontinuité pour lui, c'est la même politique, parce qu'il s'inscrit, en fait, dans un socialisme réformiste qui cherche à changer les conditions de vie des Françaises et des Français, et en lien avec une situation économique qui soit néanmoins préservée, qui soit stable et qui ne soit pas le chaos.
Alors Pierre Mauroy, qui a finalement démissionné le 16 juillet 1984, je vous propose de l'écouter, Pierre Mauroy. Je l'avais interrogé en 1992, alors qu'il venait d'être nommé président de l'Internationale Socialiste, et je lui avais demandé à l'époque à quoi servait cette Internationale Socialiste, et aussi à quoi servait le Parti Socialiste, tout simplement. Je rappelle, c'était en 1992.
Mais écoutez, à quoi sert aujourd'hui l'international? À quoi servent les partis? La politique, c'est la conduite des hommes, des femmes, c'est la conduite des affaires, c'est une part importante de l'existence de chacun, même si on s'en aperçoit pas toujours. Bon, alors parmi...
Mais le mot socialiste est plus à la mode. Hein.
Non, mais on veut pas tout à la mode. Permettez. Hein. L'international socialiste a fait un des progrès extraordinaires avec Willy Brandt. Elle est maintenant la seule organisation, je peux dire, internationale sur tous les continents. Où que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, lorsque quelqu'un, et il y en a beaucoup, c'est même l'écrasante majorité des êtres humains sur cette planète, lorsque quelqu'un conteste, lorsque quelqu'un ne veut pas l'ordre établi, lorsque quelqu'un veut davantage de liberté, lorsque quelqu'un veut davantage de démocratie, aujourd'hui que le monde communiste s'est dilué, que le communisme c'est fini, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le socialisme. Et voilà pourquoi nous rassemblons tous ceux qui hier étaient des partis révolutionnaires, tous ceux qui... Ils veulent rentrer à l'international.
Une dernière question, Pierre.
On en est même à refuser l'entrée à l'international, tellement il y a de demandes.
Pierre Mauroy, est-ce qu'il y a encore un avenir pour le Parti Socialiste aujourd'hui en France, tel qu'il l'est aujourd'hui?
Naturellement qu'il y a. Vous savez, les réformes du Parti Socialiste, le Parti Socialiste n'a pas cessé de s'adapter, n'a pas cessé de se moderniser, n'a pas cessé de se renouveler. Le Parti Socialiste, il est absolument indispensable. En dehors du Parti Socialiste, c'est de la poussière de PSU. Voilà. Par conséquent, il doit se passer ce qui s'est toujours passé, à savoir que si le Parti Socialiste rencontre des difficultés, il faudra les surmonter, il faudra dialoguer avec les uns et les autres, il faudra faire le rassemblement autour des socialistes. Et le jour où les hommes et les femmes de gauche auront fait le rassemblement autour des socialistes, ce jour-là, ils sont en mesure de gagner.
Je voudrais que nous terminions cette émission avec ces propos. Comment réagissez-vous, Pierre-Emmanuel Guigot, à ce que vient de dire Pierre Mauroy? Je rappelle que c'était en 1992.
Ah oui, alors vous étiez particulièrement hardi en critiquant devant lui le socialisme. C'est sûr qu'il allait mal le prendre. Donc le début, sa réponse était effectivement un petit peu irritée. Mais
Que l'homme était tout à fait sympathique.
L'homme était plutôt sympathique, chaleureux. Mais c'est assez typique, je pense que vous aviez plutôt raison. C'est-à-dire que 1992, c'est un moment où le PS est en grande difficulté. C'est une fin de règne pour François Mitterrand, qui est malade. Il y a tous les scandales qui vont s'accumuler. Et d'ailleurs, quelques mois seulement après, le Parti Socialiste va perdre les élections législatives et va connaître la pire défaite de son histoire jusque-là. Il n'aura plus que 50 députés alors qu'il en avait jusque-là presque 300. Donc c'est vraiment un grave échec, et quelque part vous l'aviez senti. Et Pierre Mauroy, on voit, en fait, ne se remet pas vraiment en cause, ne remet pas en cause ce statut hégémonique d'un parti socialiste que lui-même a porté, il a dirigé ce Parti Socialiste, hein, jusqu'en 1992, au moment où il part à l'International Socialiste, il quitte le PS français qu'il a dirigé pendant 4 ans. Et donc effectivement, en attaquant un petit peu le socialisme, c'est son bilan à lui, comme premier secrétaire, que vous mettez en lumière. Mais bon, après, il était tout à fait lucide sur les difficultés qu'il a rencontrées. En 1990, quelque part, ça a annoncé la suite. Il y a eu le terrible congrès de Rennes, où les socialistes se sont divisés sur l'héritage mitterrandiste. Hein. Tout le monde voulait cet héritage et voulait récupérer ce Parti Socialiste qui devait être une machine de guerre pour le pouvoir. Et ça sera notamment l'affrontement entre Laurent Fabius et Lionel Jospin. Et Pierre Mauroy va se retrouver au milieu de cette bataille de tranchées qui sera d'une violence telle que le Parti Socialiste en a rarement eu dans son histoire, même s'il est coutumier, hein, des clivages très forts. Donc voilà, c'est un moment difficile et on sent que Pierre Mauroy n'aime pas trop ça. Et quelque part, l'International Socialiste, qui lui permet de se retrouver encore une fois dans cette tradition jaurésienne, hein, de la vision vers l'international, eh bien, va lui permettre de voir un horizon large, d'ouvrir cet International Socialiste aux partis issus des anciens partis communistes, de l'ouvrir aussi vers l'Afrique. Et notamment, il va réussir à faire adhérer l'ANC de Nelson Mandela à l'International Socialiste, ainsi que d'ailleurs le Fatah de Yasser Arafat. Donc on a vraiment une ouverture qui lui permet de voir large, parce que Pierre Mauroy, c'est aussi quelqu'un qui voyait la politique française dans le monde. Il était profondément européen, il était profondément international, et pour lui, il n'y avait pas de chance de la France sans s'occuper du reste du monde, sans véritablement voir large et créer des liens bien au-delà de l'Hexagone.
Avant de parler de l'héritage, revenir sur l'héritage et ce qui reste, vous avez commencé à répondre à cette question de ces deux hommes en matière de socialisme. Je voudrais un instant m'arrêter sur la voix de Pierre Mauroy, sur cette façon de parler, sur l'éloquence. Les deux hommes, Jean Jaurès, malheureusement, nous n'avons pas de témoignage sonore, et Pierre Mauroy étaient des tribuns. Vous dites, Jean Dumas Ducange, que quand Clémenceau et Jaurès s'affrontaient à la tribune de l'Assemblée nationale, on se rendait à l'Assemblée nationale comme on allait au théâtre.
Oui, absolument. Il faut savoir
l'éloquence jouée compte pour beaucoup dans
évidemment,
la politique.
Évidemment, comme on n'a pas d'enregistrement, il faut essayer de l'imaginer. Mais une des raisons pour lesquelles beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières ont mis leur confiance dans un certain nombre de responsables politiques socialistes à l'époque comme Jean Jaurès, c'est parce qu'effectivement, lorsqu'il le voyait venir, parce qu'il a beaucoup voyagé Jaurès, hein, c'est l'époque où le train se développe beaucoup, il a été beaucoup dans différentes régions françaises, il a un phrasé, une aura, une manière de parler particulièrement spectaculaire. Il emporte avec lui, si j'ose dire, les sentiments de la population qui l'écoute. Et à l'Assemblée, alors il ne faut pas non plus idéaliser, parce qu'on parle de Jaurès Clémenceau qui sont deux immenses tribuns, il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas.
Certes.
Mais tout de même, une des raisons pour lesquelles le socialisme français a réussi sa percée au début du XXe siècle, c'est parce qu'il avait effectivement d'immenses tribuns qui étaient animés, je crois sincèrement, au-delà des manœuvres politiques qui s'imposent lorsqu'on s'occupe d'un parti, sincèrement animés par un idéal. Ils pensaient qu'à terme, 15 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, ils parviendraient d'une certaine manière à une société différente que la société capitaliste, sans inégalité sociale ou avec moins d'inégalité sociale. Et ça les porte même jusqu'à l'oral, jusqu'à leur manière de s'exprimer. C'est la différence avec les courants conservateurs aussi, je pense.
Ah, ce qui frappe chez Pierre Mauroy, c'est ce que nous explique très bien Pierre-Emmanuel Guigaud dans son livre, et ce que vous nous expliquez très bien pour Jean Jaurès, c'est ce mélange d'idéalisme et de pragmatisme finalement qu'il y avait chez ces deux hommes.
L'héritage de Jean Jaurès, c'est finalement plutôt cela. C'était d'essayer d'envoyer un message aux deux fractions de la gauche qu'il a beaucoup connues en son temps, par-delà les sous-tendances et les différences. C'est qu'il y a une gauche plutôt gestionnaire, et il a joué le jeu de la gestion jusqu'à un certain point. C'est de dire, vous ne pouvez pas gérer le système capitaliste, permettre un certain nombre de réformes, si vous ne conservez pas un minimum, un idéal qui va au-delà de la gestion quotidienne, sinon vous allez vous perdre d'une certaine manière. Et inversement, il dit au plus à gauche, il dit, si vous ne faites que de l'agitation révolutionnaire en permanence, théorique, verbal, etc., vous n'allez pas réussir à conquérir le cœur des gens parce qu'on a l'impression que vous savez très bien parler, vous êtes très radical, mais finalement, vous servez un peu à rien. Donc, le legs de Jean Jaurès, c'est plutôt d'essayer de dire qu'il existe un espace entre les deux, perpétuellement à construire, perpétuellement difficile à mettre en œuvre, mais si on n'a pas l'un ou pas l'autre, eh bien, on se retrouve avec deux pôles opposés qui, finalement, s'affaiblissent mutuellement les uns les autres. C'est ça, quand même, une des raisons de son combat tout au long de son existence.
Jean Numa Ducamp, j'ai l'impression que vous pensiez à l'actualité, en écrivant cette phrase, celle que je vais citer. Jaurès garde une intime conviction tout au long de sa vie, celle que la politique doit s'accompagner d'un grand récit et d'une logique explicative forte pour permettre à l'action, nécessairement rythmée par des revendications contingentes et immédiates, de conserver un sens. C'est moi qui ai pensé à l'actualité en lisant
cette phrase. Bien, sur les dernières phrases en plus, donc c'était plutôt tourné vers le... On ouvre en conclusion normalement. Non, mais ce qui est clair, c'est que, bon, indépendamment, on ne va pas distribuer des bons et des mauvais points aux uns et aux autres, ce n'est pas le lieu, mais il est clair que pour porter un message politique alternatif à l'ordre existant, pour le dire simplement, bon, il faut un petit peu faire rêver, si je puis dire, les populations auxquelles vous vous adressez. Et donc Jaurès est convaincu qu'effectivement, il faut proposer un grand récit, un mode explicatif du monde, qui doit se décliner de manière très concrète sur un certain nombre de choses, de la laïcité, les réformes sociales, l'impôt sur le revenu, tout ce que vous voulez. Mais si vous ne faites que, comment dirais-je, n'est qu'une logique purement parlementaire, institutionnelle, bon, bah, quand vous êtes comptable, bon, peut-être des gens vous sauront gré d'avoir fait ça. C'est déjà mieux que rien, peut-être. Mais on a du mal à penser que la politique puisse se résumer à cela.
Pierre-Emmanuel Guigot, c'était aussi ce que pensait Pierre Monroy, la notion de récit.
Oui, tout à fait. Alors son récit à lui, il était inscrit dans l'histoire du socialisme. On l'a entendu tout à l'heure, il avait cet art en fait, de raconter avec un certain lyrisme ce qu'était le socialisme, un lyrisme parfois même un peu forcé, et l'histoire de la classe ouvrière, et en quoi tout ça nous menait vers la conquête du pouvoir et vers des grandes réformes de transformation sociale qui s'inscrivait dans ce récit-là. Cette vision de l'avenir, d'aller toujours plus loin, on le retrouve dans ses discours et dans ses écrits à plusieurs reprises. Déjà, son premier ouvrage, il va décider de l'appeler « Héritier de l'avenir », ce qui dit beaucoup justement de cette inscription du socialisme qui était le sien dans une histoire beaucoup plus ancienne. Et puis on le retrouve aussi parce que c'est lui qui a fait réécrire la profession de foi du Parti Socialiste lorsqu'il était premier secrétaire en 1991 au Congrès de l'Arche. Il a fait voter une nouvelle profession de foi qui s'inscrit totalement en fait dans le réformisme et dans l'idée qu'on n'est plus dans un socialisme révolutionnaire tel que le voulait Guède, mais dans un socialisme en fait qui a vocation à transformer concrètement la vie des travailleurs au quotidien.
Merci Pierre-Emmanuel Guigot. Votre livre s'intitule « Pierre Monroy, le dernier socialiste » et il est publié aux éditions Passé et Composé. Merci Jean-Numa Ducange de nous proposer, de nous avoir écrit cette biographie de Jean Jaurès publiée aux éditions Perrin. Et on espère que les socialistes, on espère pour eux en tout cas, que les socialistes retrouveront des personnages charismatiques.
Je partage tout à fait votre espérance. Donc on verra comment les choses évolueront. Mais il est clair que si vous ne portez pas encore une fois une voix un peu au-dessus de la mêlée, comme on disait à une époque, on ne voit pas pourquoi on vous écouterait, surtout quand vous êtes sur des choses qui, sur un certain nombre de choses, sont plutôt à contre-courant de l'opinion générale. Donc il faut d'autant plus redoubler. C'est ça, Jean Jaurès, il est à contre-courant. C'est 5% des voix, les socialistes, quand ils commencent à être socialistes. Donc c'est tout petit, mais il faut porter cela haut et fort et de manière subtile. Bon courage à eux.
Nos auditeurs socialistes, qui apprécient les idées socialistes, l'espèrent, j'imagine également. C'est la fin de ce numéro d'idées, donc réalisé évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à cette même heure pour de nouvelles idées. Dans un instant, quelques nouvelles du monde sur RFI.